Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix du Brésil. Alors, il n'y a pas eu de podcast depuis à peu près 2 semaines, je crois, environ. Et pour cause, j'en ai préparé 2, du coup, pour l'occasion. Donc là, le ce qu'il ne fallait pas manquer au Brésil que vous êtes en train d'écouter. Et ensuite, vous irez peut-être écouter, si vous le souhaitez, le High Speed Dating sur Max Verstappen. Parce qu'il fallait bien en parler. À un moment, il fallait bien continuer les HSD. Donc c'est ce qui était au programme, c'est ce qui est fait. Mais pour l'heure, on va parler du dernier Grand Prix en date, l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2016 de Formule 1, le Grand Prix du Brésil. Alors, une semaine avant le Grand Prix, pile une semaine, hein, j'ai regardé les prévisions météo pour Sao Paulo et je voyais qu'ils annonçaient de la pluie pour le week-end et en particulier pour le dimanche, jour de la course. Et donc après, ben, vous le savez sans doute, ou peut-être, ou pas du tout, mais j'adore les Grands Prix sous la pluie généralement. Je trouve que ce sera très excitant en tant que passionné de la F1 et en tant qu'observateur de ce sport également. Et je trouve que, en plus, vu le contexte de la saison, c'est-à-dire que là on arrive avec un Rosberg, on arrivait avec un Rosberg avec 19 points d'avance, je crois, 18 ou 19, 19 je crois, hein, 19 points d'avance. Et donc ça pourrait vraiment chambouler les choses, quoi. C'est ça que je me disais dans la lutte pour le championnat, peut-être que Rosberg pourrait remporter le titre, peut-être que Hamilton pourrait revenir, voire repasser devant, enfin, il y avait plein d'inconnus que cela posait, et ça pourrait augmenter la tension qui pouvait régner sur les deux hommes. Donc tous les jours, j'ai regardé les prévisions, et tous les jours, je voyais que pour le dimanche, ça continuait, que pour les autres jours aussi, ça semblait pluvieux. Au final, les pilotes ont pu échapper à la pluie sur les autres journées, globalement. Mais pour le dimanche, en effet, la pluie est arrivée. Donc je m'attendais à une grande course. Je n'ai pas été vraiment déçu. Il y a eu une bonne course de F1. J'étais déçu par certaines décisions qui nous ont un peu gâché le plaisir, quoi, qui nous ont fait un peu attendre. Et aussi par le fait que je m'attendais à plus de choses devant entre Hamilton et Rosberg, et au final il s'en est assez peu passé parce que les deux pilotes ont très bien géré, tout simplement. Et d'ailleurs, ça va être mon premier point. En effet, Lewis Hamilton, tout d'abord, a remporté la course et, encore une fois, dans des conditions pluvieuses, a été impérial. Il a été au-dessus du lot, jamais inquiété par Rosberg, jamais inquiété par qui que ce soit. Il a mené le train, il a géré le rythme, il a bien géré les restarts, le départ, aucune erreur notable. Il a su même se créer une grosse avance sur Rosberg régulièrement. Voilà, Hamilton a fait le boulot. Il fait le boulot depuis quelques courses, il fait très bien le boulot. Il n'y a pas d'erreur au départ de sa part déjà, ce qui lui a fait perdre le plus de points cette saison. En tout cas de son fait, il n'y a pas eu de problème mécanique. Donc là, il fait pas d'erreur, il n'y a pas de problème extérieur, il gère, il est devant. Est-ce que ça va suffire? Ça va être compliqué. Je vais y revenir. En tout cas, voilà, première place. En deuxième position de ce Grand Prix du Brésil, Rosberg. Rosberg qui a été très prudent, qui n'a jamais cherché à inquiéter Hamilton à chaque restart, hein, il l'a laissé faire sa vie en gros. Et puis de son côté, il a assuré la deuxième place. Mais ça aurait pu être risqué. Finalement, c'est une prudence assez intelligente, finalement. Il suit les conseils que Alain Prost a pu lui prodiguer. Mais c'est une prudence assez risquée. Parce que deuxième, c'est s'exposer à ceux qui sont derrière et qui sont des morts de faim. Alors que premier, quand t'es premier d'un Grand Prix sous la pluie et que tu gères bien le rythme ou que tu gères bien sous la pluie sans faire d'erreur, que t'as un rythme intéressant, généralement, bon, derrière, ça va pas trop, on va pas trop essayer de t'inquiéter. Et en plus, t'as pas de projection d'eau devant, vu que t'es forcément en tête sur la piste. Donc voilà. Donc Rosberg, prudent. Finalement, son rythme était bon, donc ça suffisait globalement à distancer ceux qui étaient derrière. Sauf à un moment avec Verstappen, qui était le deuxième, hein, sur la piste, à être le plus rapide, hein, très clairement, Verstappen. Derrière Hamilton, bon, il y avait Hamilton et Verstappen qui étaient au-dessus, puis ensuite les autres, on va dire. ensuite Rosberg et ensuite les autres. Mais voilà, donc gros rythme de Verstappen qui a su inquiéter Rosberg et qui a failli le faire partir à la faute également, parce que Rosberg, à un moment, vu qu'il devait quand même maintenir un certain rythme pour pas s'exposer à la menace du pilote néerlandais, et qui dit menace dit risque de sortir et de se ruiner le championnat, eh bien il a dû maintenir un certain rythme, et à un moment il a fait une erreur, Rosberg. Je crois qu'il est parti à la faute, ouais, tout simplement. Heureusement, ça n'a pas entraîné l'abandon pour lui, ce qui aurait été terrible, mais il a perdu des grosses secondes, en tout cas pendant la course, qui ont été sans conséquences. Et heureusement, il a pu souffler surtout à cause de la stratégie de Red Bull qui a décidé de chausser les pneus intermédiaires sur les deux monoplaces. C'était bon, peu compréhensible en fait comme prise de risque de la part de Red Bull. Red Bull qui des fois se voit un peu trop intelligent qu'ils le sont. Et là, ils se sont vus bien bêtes, malheureusement pour eux. Et heureusement pour les Mercedes qui étaient tranquilles. Et du coup, au championnat, eh bien, Hamilton revient, si mes calculs sont bons, à 12 points. 12 points de Rosberg. Donc, ça ne suffit pas. Si Hamilton gagne le prochain Grand Prix, mais que Rosberg fait premier ou deuxième, non, fait deuxième ou troisième, eh bien, Rosberg sera champion. Donc, sachant que ça sera à Abu Dhabi, qu'il y a peu de chances qu'il y ait de pluie. Faut voir. Après, la prudence de Rosberg, est-ce qu'il sera aussi prudent sur des conditions sèches? Hamilton, est-ce qu'il sera prêt à aller vraiment chercher aussi, peut-être aller chercher Rosberg, peut-être à faire quelque chose de fou, tel Luca Di Grassi en Formule E en fin de saison dernière, c'est-à-dire aller sortir Rosberg pour essayer quelque chose, quoi, mais bon, quitte à être disqualifié ou quoi, on ne sait pas, hein, les perspectives de championnat rendent vraiment fous les pilotes, hein. Leur font vraiment faire des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal, donc on peut s'exposer à ça. Après, faut voir. Rosberg également avec sa prudence, est-ce que une prudence ne serait pas l'exposer à un risque de se faire attaquer par deux pilotes Red Bull derrière, voire par les Ferrari, si les Ferrari s'avéraient être en forme? Rosberg doit impérativement réussir sa qualification, ça c'est clair. À mon avis, c'est le point le plus important du week-end. S'il foire sa qualification, il se met en danger. Hamilton, il doit impérativement tout réussir. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Il doit faire comme les précédents Grands Prix. Mais voilà, avantage à Rosberg, évidemment, parce qu'il a la monoplace, quoi, la meilleure monoplace du plateau. Et il va pouvoir gérer également. Il aura l'occasion de gérer si tout se passe bien. Après, Hamilton en course, il peut peut-être user de stratégie pour, on va dire, essayer de ralentir Rosberg pour faire revenir les Red Bull, peut-être. À voir, c'est très délicat de mettre en place ce genre de stratégie, mais bon, c'est peut-être possible sur un circuit où finalement le dépassement est assez compliqué, à part sur les lignes droites DRS. Moi, pour l'instant, avantage Rosberg, évidemment. Si Hamilton remporte le titre, franchement, c'est que Rosberg n'aura pas fait ce qu'il faut. Et oui, si Rosberg remporte le titre, c'est que tout simplement, voilà, il aura fait ce qu'il faut cette fois-ci. Enfin, une fois dans sa carrière, enfin, il sera champion du monde et on pourra l'acclamer pour cela. Comment évoquer ce Grand Prix du Brésil sans évoquer les conditions et la course énorme de Max Verstappen sur ces conditions? Mais j'ai envie de saluer un peu tout le monde, tous les pilotes tout d'abord, parce que les conditions étaient assez dantesques, on va dire, praticables, mais assez dantesques. Dantesques parce que il y avait, comment dire, il y a des pneus pluie de Pirelli qui sont pas vraiment OP, hein, qui sont pas vraiment au point, quoi, malheureusement. Alors c'est la faute est partagée, hein, comme je l'avais déjà dit dans un podcast, à la fois Pirelli de pas avoir produit des pneus assez efficaces et qui partent en aquaplaning, à peine il y a de l'eau, il peut y avoir de l'aquaplaning, et ça peut être très risqué, et on l'a vu avec l'accident de Raikkonen, hein, qui aurait pu faire un jeu de quilles assez terrible, qui ne serait pas sans nous rappeler Belgique 98. Heureusement on n'a pas revécu ça. Mais Mais voilà, en tout cas, et la faute partagée avec la FIA surtout, qui n'a pas accordé les tests à Pirelli précédemment. Là, ils les ont accordés à Pirelli cette saison en vue de la saison 2017, comme il y a d'énormes changements. Mais Pirelli a dû aller chercher la FIA, a dû leur implorer de leur faire des tests, quoi, a dû les menacer même. Aller les menacer en leur disant, bon, ben, vous nous donnez pas de test, on quitte la F1 parce qu'on en a marre que ça retombe sur nous en termes d'image. Et alors qu'en fait, nous, on demande d'avoir des tests pour avoir des bons pneus. Et aussi, on suit vos instructions. Parce que, ouais, il y a un carnet de route qui est fourni par la FIA, qui n'est pas forcément le bon. La FIA qui veut le spectacle, le spectacle, le spectacle, des pneus spectacle, quitte à faire un truc qui est insensé en termes de course auto. Mais voilà, et aussi à ne pas donner de test, c'est ridicule. En plus, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux, ça va à l'encontre, on va dire, de l'élan sécuritariste de la FIA, mais ils se contredisent sans cesse, la FIA. Donc, que voulez-vous? Bref, ce point-là, je comptais parler de Max Verstappen. Voilà, l'énorme course de Verstappen. Pardon pour la petite digression, mais je devais de la faire. C'était obligé de parler de ça quand j'évoquais le Grand Prix du Brésil. C'est impossible de laisser passer ce point. Donc Verstappen, voilà. Vous savez que je porte pas dans mon cœur Max Verstappen, mais je m'en fous en fait. D'aimer ou pas des pilotes, ça n'a aucune importance. Je suis là pour être objectif, pour aussi dire quand un pilote fait des bonnes choses, fait des mauvaises choses. Et là, Verstappen, ben, il m'a envoyé du rêve, hein, vraiment. Même si j'aime pas tellement sa manière d'être, de se comporter, mais là, il m'a envoyé du rêve en termes de pilotage et c'est ce qui compte. Et je me rappelais déjà avant le début de la course, je me rappelais Silverstone. Je me rappelais Silverstone et je savais que Verstappen déjà était connu pour être bon sous la pluie avant la F1. Mais je me souvenais Silverstone en 2016 où il avait fait une énorme course déjà à Verstappen. Bien là, il nous a reproduit exactement la même chose en mieux parce qu'en plus il a été amené à revenir de loin du peloton à cause de la stratégie de Red Bull. Red Bull qui à un moment choisit de chausser les pneus intermédiaires. Alors on ne sait pas pourquoi, parce que en plus beaucoup avaient fait cette erreur avant. On avait le rythme, Red Bull connaissait le rythme des pilotes chaussés en intermédiaire et ils savaient que le rythme était identique, commençait à être identique au bout de quelques tours au rythme des pneus pluie, mais n'allait pas le dépasser, n'allait pas dépasser le rythme des pneus pluie. Qu'en plus il y avait toujours de l'eau qui pleuvait, qui tombait sur la piste, il y avait de l'eau stagnante au secteur 3. Bref, il n'y avait aucune raison de faire arrêter les deux en plus. D'habitude, on va faire arrêter un dans une équipe, et après on voit ce qui se passe, et après on fait arrêter l'autre si c'est bon. Mais là, non, il n'y avait aucune raison. Bon, ils ont fait arrêter les deux. Verstappen a dit à la radio que dans le secteur 3, c'était pas possible, et qu'il allait se crasher s'il continuait comme ça. Donc l'équipe l'a écouté, et il s'est arrêté de nouveau au stand, il a dû chausser des pneus pluie. Ricciardo, je crois qu'il a dû faire la même chose. Et du coup, Verstappen, c'était assez tardif. En plus, son arrêt en pneu intermédiaire, donc c'était vraiment très très mauvais coup stratégique. Et du coup, ils ont fait repartir Verstappen loin dans le classement, ce qui était risqué, parce que être dans le peloton dans un Grand Prix sous la pluie, ça peut être risqué. Hein. Il peut partir à la faute. Bref, mais Verstappen, au lieu de ça, il y est allé, il est remonté, il est remonté, il est remonté, il est remonté. Je crois qu'il était reparti 16e ou 13e, je sais plus. Il est remonté jusqu'à la 3e place quand même, ce qui était assez fort. Ce qui était assez fort parce qu'il nous a offert quand même un très beau pilotage. Il était très très rapide. Alors certes, il y a une partie de cette rapidité qui est due au fait qu'il avait des pneus beaucoup plus neufs que ses concurrents. Mais il n'y a pas que ça. Quand on est sous la pluie, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a aussi, on l'a vu. On l'a vu Verstappen préparer ses trajectoires quand il était derrière la voiture de sécurité. Il y avait peu de pilotes qui ont fait ça. Il y en a d'autres hein, qui l'ont fait, mais lui, vraiment, on le voyait bien faire ça. Préparer les trajectoires, tester l'adhérence ici et là, extérieur, intérieur. Ça pouvait être risqué même derrière la safety car, mais c'était à faible vitesse, donc il sentait bien. Et puis après, on l'a vu avoir des trajectoires très différentes de ses concurrents, et c'est ce qui lui a permis notamment. Donc ça, c'était avant qu'il chausse les pneus intermédiaires, hein, qui est tout ça, notamment de dépasser Rosberg. Très bon dépassement sur Rosberg. C'était dans les S de Senna, dans la courbe à gauche, qui marque la fin des S de Senna. Il y a Rosberg qui est dans la trajectoire habituelle, donc plutôt à l'intérieur. et Verstappen, trajectoire toute extérieure en mode karting, hein, trajectoire toute extérieure, la trajectoire où il pouvait avoir le plus de vitesse possible, et il dépasse Rosberg comme ça, et très très beau dépassement, qui le met en deuxième position. Après, en termes de rythme par rapport à Hamilton, c'était relativement similaire, mais avec quand même un avantage à Hamilton qui était bien à l'aise hein, dans ces conditions, sans faire d'erreur. Et ensuite, voilà l'arrêt pour chausser les intermédiaires de la part de Red Bull. Incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Et ben Verstappen n'en était pas, pas très content. Et, et oui, il avait bien des raisons de ne pas en être très content. Et du coup, au lieu d'être deuxième, eh bien, il a pu terminer que troisième Verstappen, entre guillemets. Je pense que la deuxième place était la place qu'il méritait. Un peu comme au Grand Prix de Silverstone, sauf qu'au Grand Prix de Silverstone, c'était différent. C'était le fait qu'il y a eu des conditions mixtes et changeantes. Donc forcément, après, en conditions sèches, la Mercedes était plus forte que la Red Bull. Là, c'était pas le cas, c'était vraiment une erreur stratégique, et du coup, ils ont perdu quelques points dans la bataille. Et d'ailleurs, ben, Rosberg peut être très content de ça. C'est le plus content dans l'histoire, parce qu'il gagne 3 points dans l'histoire, hein. 3 points très importants, hein. 3 points qui lui permettent, à Abu Dhabi, de finir 3e. Et oui, 3e, ça suffit. Alors que si Verstappen avait fini 2e au Brésil, eh bien, ça n'aurait pas suffi. Il aurait fallu une deuxième place. Bon, ça, ce qui reste assez confortable quand même, mais voilà. En tout cas, bon, très belle course de Verstappen qui prouve qu'il fait partie des tout meilleurs sous la pluie. Donc voilà, moi je note Hamilton, Verstappen. Pour moi, c'est les deux références sous la pluie. Surtout Hamilton parce que là, une nouvelle victoire quand même. Il a des statistiques folles sur les Grands Prix sous la pluie. C'est hallucinant ce que fait Hamilton. Et Verstappen, ça m'étonnerait pas qu'on le voie y remporter peut-être des Grands Prix sous la pluie dans le futur. Il n'hésite pas à prendre des risques, à aller dépasser à des endroits hallucinants. Après, ces dépassements ont été un peu critiqués de Verstappen sous la pluie, notamment par Vettel. Vettel qui s'est fait dépasser par Verstappen et qui a estimé que son dépassement à Verstappen n'était pas correct. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que le dépassement de Verstappen était correct. Dès lors que dans des conditions comme ça, t'es à l'intérieur du virage et que la porte avait été ouverte et que t'es à l'intérieur du virage et que t'es pas à la rue au freinage, et c'était pas le cas de Verstappen, il était pas à la rue, il a dépassé Vettel. Si t'insistes à l'extérieur, bon, après c'est les conditions sous la pluie, tu t'es pas trop concentré sur ce qui se passe derrière, mais bon, dès lors que t'es à l'extérieur et que t'as laissé la porte ouverte, eh bien t'en payes le prix et tu te fais dépasser. Pour moi, il n'y a pas de souci sur le dépassement de Verstappen, ouais, sur Vettel. Vettel, bon, il tient un peu en grippe Verstappen, et il y a des raisons, certes. Mais là, franchement, faut pas que Vettel non plus se mette à pleurer sur tout et rien, parce que là, il se crée, il revient dans une image qu'on avait lui, qu'il avait chez Red Bull, une image un peu moins positive, un peu plus négative. Faut pas qu'il aille là-dedans. Hein. Faut qu'il calme sa frustration. Après, la saison est longue, la fin de saison est très longue, surtout pour tout le monde. Donc, à mon avis, la fin de saison lui fera le plus grand bien à Vettel, et l'année prochaine, c'est du tout nouveau avec ses monoplaces, donc on verra bien. Et oui, donc Verstappen, je regarde sur mes notes, en effet, je regardais pas mes notes en parlant, mais là je la regarde, il s'est retrouvé 16e hein, suite à l'arrêt au stand, suite à l'arrêt au stand pour chausser les pneus pluie, donc suite à l'erreur de stratégie. Donc il a dû remonter 16e, de la 16e place à la 3e place, donc là c'est avec un gros rythme, donc là c'est très fort. Et en plus, ah oui, aussi, autre, il n'y a pas eu que ses dépassements et son rythme, il y a aussi un moment, il était deuxième, quand il était deuxième, Verstappen, il est parti en tête à queue. Là, au secteur 3, là où il y a l'eau stagnante et où c'est le plus risqué. Où d'ailleurs, Romain Grosjean est parti à la faute avant même le début du Grand Prix dans le tour de mise en place, ce qui était assez ridicule et franchement, Grosjean, là, il s'est pas illustré là-dessus, ça c'est clair. Comme l'année dernière, je crois l'année dernière aussi Grand Prix du Brésil, pas bon, hein, Grosjean, il me semble, je sais plus. Plus c'était Grand Prix du Brésil ou un autre, mais. Enfin bref, là, ça fait partie des fois de ses errances. Bon, il en a très peu, mais voilà. Et donc, Verstappen part en tête à queue, un peu à la manière de Marcus Ericsson, d'ailleurs, qui lui, Marcus Ericsson, a dû taper dans le rail et a dû abandonner, mais là, Verstappen a fait un con. A contrôlé sa monoplace vraiment très très bien. On a vu qu'il l'a contrôlé, hein, qu'il a vraiment agi à la fois sur le volant, la pétale d'accélération, de frein, surtout sur l'embrayage. Bref, il a pu repartir dans le bon sens avec sa monoplace et garder la deuxième place en plus sur Rosberg qui revenait à pleine balle sur lui. Donc là, vraiment, et d'ailleurs, c'est un contrôle de monoplace qui n'est pas sans rappeler ce qu'il avait fait Verstappen déjà l'année dernière au Grand Prix du Brésil en essai libre. C'était à peu près similaire, sauf que là, c'est dans des conditions. On ne sait pas comment il a fait pour éviter le rail, c'est assez fort. Bref, bravo Verstappen pour cette course. Et bon, bah Verstappen, hein, si vous l'aimez bien, ou même si vous l'aimez pas, hein, eh bien, je vous invite à écouter le High Speed Dating qui suit ce podcast et qui lui est consacré. Il faut parler du deuxième drapeau rouge, hein, dans cette course, qui selon moi est insensé. Tous les pilotes qui étaient derrière la voiture de sécurité disaient que c'était praticable, hein, que la piste était praticable, il n'y avait pas de souci. Et il y a eu un drapeau rouge, le deuxième, hein, je parle du deuxième, le premier justifié, mais le deuxième drapeau rouge, selon moi, est insensé. Ça a mis tout le monde dans l'incompréhension la plus totale, dans la colère, les pilotes qui doivent, on va dire, ressortir de leur élément, puis y re-rentrer, c'est très compliqué. Les fans, hein, brésiliens qui ont hué la direction de course. Pour cette décision. Et en effet, hein, les fans quand même qui sont là depuis des heures et des heures dans ces conditions, et quelque part, on pense pas à eux, on pense pas aux pilotes également. En fait, cette décision est incompréhensible sur plusieurs points, et après, la direction de course a essayé de se justifier, enfin ça en est justifié. La décision a été prise, en fait, parce que les conditions climatiques pouvait éventuellement s'améliorer ensuite. Enfin, c'est ce que pensait la direction de course selon les prévisions météo. Mais en gros, ce que moi je trouve fou, c'est de miser une telle décision, c'est-à-dire arrêter la course. Selon moi, c'est une décision forte qui doit être exceptionnelle et qui ne doit pas être répétée comme ça en course, surtout pour des prédictions, la direction de course qui se prend pour Miss Météo tout d'un coup et qui mise comme ça sur une prédiction. Pour interrompre une course, c'est quand même assez moyen, surtout qu'au final, ça peut créer quelque chose de pire, ça peut créer un arrêt de la course. Parce qu'imaginons la pluie redouble d'intensité, ça s'évacue mal, ben là, on peut pas repartir la course, ça aurait été juste là, pas possible. Donc là, moi, c'est ça que j'avais craint quand il y a eu le deuxième drapeau rouge, c'est que la course ne puisse pas repartir. Et je pense que vous étiez beaucoup dans ce cas. On a connu des cas également comme ça qui étaient assez fous. Et c'est mieux, c'est souvent mieux de laisser les voitures en piste parce qu'elles vont créer une trajectoire, elles vont évacuer de l'eau plutôt que les arrêter, surtout quand c'est praticable. Et là, ça l'était. Donc, selon moi, cette décision. Alors, soit la direction de course vraiment pensait ça, mais dans ce cas, elle s'éloigne complètement de comment dire. D'une logique de course, tout simplement parce que c'est une arrogance folle, on va dire, de la direction de course et donc de Charlie Whiting et donc par extension de la FIA de faire ça. Parce que selon moi, ces personnes-là ont peur que les pilotes aient trop de pouvoir. Donc elles cherchent à réaffirmer le leur. Je l'avais dit déjà dans un podcast, mais là, c'est vraiment une illustration totale, les pilotes disent ça, on en est sûr et tout, arrêter la course en deuxième drapeau rouge, ce serait fou, et en plus il y aurait le risque de que la course redémarre pas, et donc quand même la direction course, drapeau rouge. Donc voilà, donc quitte à prendre des décisions pas très intelligentes, à se mettre à dos tout le public, à créer de l'incompréhension chez les pilotes, à créer du danger également, eh bien la direction de course prend la décision elle-même, sans tenir compte, en ayant des œillères totalement, et en se plaçant au-dessus du lot. Et selon moi, c'est clairement une affirmation du pouvoir, tout simplement. C'est une question de jeu de pouvoir, pour moi, c'est une décision politique. Et en plus, ce qui était le plus ridicule, c'est qu'après, quand la course a été relancée derrière la voiture de sécurité, c'était plus sombre, évidemment, vu qu'on était plus tard dans la journée au Brésil. La pluie, il y en avait un peu plus, évidemment, sur la piste, et donc plus au secteur 3 en particulier, où il y avait de l'eau stagnante. Et là, on a fait repartir le Grand Prix. Bon, pour Pour les pilotes, c'était praticable. Toujours, les pilotes disaient, ben, c'est pareil qu'avant le drapeau rouge, c'est aussi praticable. Donc là, la course est repartie. Donc c'est là que la direction de course a été contradictoire une nouvelle fois, parce que si elle avait voulu être dans une logique, dans sa logique du deuxième drapeau rouge, eh bien, il y aurait eu un troisième drapeau rouge. Oui, une interruption de course totale, à mon avis, on a arrêté la course là. Sauf que là, non, la course est repartie, parce que vraiment, là, à mon avis, la direction de course a senti que si la course repartait pas, il y aurait des gros soucis, parce que au niveau du promoteur, au niveau de Bernie Ecclestone, il y a des droits qui sont payés, il y a un enjeu colossal envers une telle course. Et à mon avis, dans un moment où la F1 vient de se faire racheter et tout, ça aurait pas été de bon ton d'interrompre une course comme ça. Et heureusement que voilà, la direction de course, à mon avis, a senti la pression monter et a relancé la course. Après, je suis d'accord sur pas mal de décisions de la direction de course, hein, je veux pas. Je leur fais porter le chapeau seulement sur le deuxième drapeau rouge, hein, pas sur le reste. Le reste, je suis totalement d'accord. Les safety cars, ils ont été immédiats, instantanés, ça c'est très bien. La leçon de Suzuka 2014 est apprise selon moi. Avec la virtual safety car et aussi avec les safety cars instantanés, c'est très bien. On laisse pas le temps de réfléchir, safety car. Ça c'est bien. Dans des conditions comme ça, à mon avis, c'est obligatoire. Donc voilà, très bien, bravo pour ça. Mais pour le deuxième drapeau rouge, là, non, là je mets un carton jaune. C'est pas bien. Sur à plein de points de vue, hein, que ce soit un point de vue de la course, des fans, du danger, de la concentration des pilotes, de tout en fait. C'était pas bien. Et en plus, l'argument c'est sur la prédiction météo. Donc imaginez si la prédiction se trompe, hein, ce qui peut arriver. Donc, pour moi, c'est pas. Quand on t'arrête une course comme ça doit être sur des certitudes. Ça doit être sur une certitude. Le premier drapeau rouge, c'était sur une certitude. Le deuxième, ça ne l'est pas du tout. Pas du tout, du tout. Sachant que les pilotes disaient ben, que c'était bon. Donc, bon, voilà, la direction de course en a fait qu'à son. Comment dire? Qu'à son œil, qu'à son avis. Et n'a pas écouté tout le reste. Et d'ailleurs. Ce qui est un beau symbole de ça, c'est Charlie Whiting au début du week-end, le jeudi, donc avant même les essais libres. Pour moi, c'était une bonne intention, c'était que Charlie Whiting intervienne sur les incidents qui ont eu lieu au Grand Prix du Mexique. Je me suis dit, c'est bien qu'il vienne s'expliquer, on va apprendre des trucs. Mais en fait, non, Charlie Whiting est venu nous expliquer ce qu'on savait à peu près déjà. Finalement, les autres pilotes, ça les a pas mis d'accord du tout. Ils sont restés avec leur avis qui se valait, hein, finalement. Et Charlie Whiting n'a pas, on va dire, remis en cause les décisions qu'a pris la direction de course. Les a expliquées, mais n'a pas apporté de réelles nuances. Hein. Selon moi, c'est un système qui est tout à revoir, hein, le système des pénalités. C'est tout à revoir, ça ne va pas, ça ne convient pas à ce sport en fait. Ça ne convient pas à ce sport, ça crée que du négatif, je me répète par rapport au dernier podcast, mais ça crée que du négatif et là, faut vraiment remettre en question tout ce système-là. Hein, selon moi, c'est primordial. Parce que quand je vois ces personnes qui se croient tout savoir, tout simplement, c'est pas positif. On parle de mettre un seul commissaire pour tous les grands prix. Selon moi, ça changerait rien. C'est pas du moment qu'il y a le même système de pénalité. On peut choisir telle pénalité ou telle autre selon l'appréciation d'une direction de course qui est vissée sur les chaises et qui n'écoute pas les pilotes et qui fait partie de la FIA et qui donc voilà doit affirmer une certaine supériorité sur les pilotes. Selon moi, il y a quelque chose qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui va pas là-dedans. Et mettre un seul commissaire pilote à chaque fois, ça va rien changer. Ça va rien changer. Il y aura toujours les mêmes débats, les mêmes problèmes. Donc, tout le système est à revoir. Pour terminer ce podcast, je vais brièvement parler de pilotes qui ont brillé durant cette course et dont il faut parler. Donc, pêle-mêle, hein, je parle pas de tous les pilotes, parce que globalement, moi, selon moi, ils ont tous à peu près été bons pendant cette course. Bon, sauf quelques-uns qui ont abandonné et qui n'ont pas su rester sur la piste. quelques-uns par leur faute, d'autres parce que les pneus ont créé de l'aquaplaning, notamment ben Raikkonen, hein, c'est compliqué de dire que c'est de sa faute hein, à ce moment-là, bon, c'est possible, mais c'est vrai que partir en aquaplaning comme ça en pleine ligne droite, c'est assez étonnant quand même. Enfin bref, je vais parler des pilotes où je veux mettre un petit en avant, je veux les mettre en avant un peu. Donc les Force India, les deux Force India qui ont fait du très beau travail, Pérez 4e qui était longtemps sur le podium provisoire, Hülkenberg 7e, et grâce à leur performance, eh bien Force India va être définitivement 4e au championnat des constructeurs, sauf véritable chamboulement au Grand Prix d'Abu Dhabi qui permettrait aux Williams de se hisser très haut, et aux Force India d'être très bas. Mais je pense pas là. Je pense que Force India fait le boulot et un très bon boulot. Et les Williams, au contraire, Bottas n'a pas su se hisser où il fallait. Massa a dû abandonner, malheureusement. Ce qui était triste pour son dernier Grand Prix au Brésil. Très émouvant, hein, d'ailleurs, le moment où on le voit avec le drapeau du Brésil traverser la ligne des stands. Les mécanos Ferrari qui font la haie d'honneur étaient Mercedes en premier lieu également, hein, très sport. C'est très beau, bref. Carlos Sainz, 6e sur Toro Rosso. Donc voilà, un résultat, être 6e sur Toro Rosso, c'est toujours fort. Sainz qui enchaîne hein, toute la saison, tout au long de la saison. J'ai pas oublié ce pilote, hein, il a fait des très bons résultats en termes de placement. Je le trouve encore fébrile sur ses défenses. Enfin, sur ses défenses, je les trouve... C'est un peu à la Verstappen, sauf que c'est pas efficace en plus. C'est-à-dire que c'est à la fois dangereux et à la fois il se fait passer. Donc bon, pour moi, c'est un très mauvais pilote en défense. Sinon en termes de rythme, en termes de saisir les opportunités, il est très très fort. Felipe Nasser, parlons-en, le pilote brésilien, il était chez lui. Il a fait, on va dire, sa deuxième belle course en F1 sur une quarantaine. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est quand même une course qui compte puisqu'il termine 9e. 9e, c'est 2 points pour Sauber et 2 points qui sont cruels pour Manor puisque Sauber passe devant Manor grâce à ces 2 points. Donc très belle course de Felipe Nasser qui était dans un bon rythme. Il a bien su résister à ses concurrents assez longtemps. Il a mis du temps à se faire passer et du coup, ben 9e. Hein, s'il avait fait une erreur, eh bien il aurait été à mon avis au-delà de la zone des points puisque derrière lui ça poussait. Hein, le 10e et 11e étaient vraiment pas loin. Donc très belle course de sa part. Esteban Ocon, malgré sa très belle course, hein, le français chez Manor, qui était longtemps dans les points, il était à 1,5 seconde à un moment de Felipe Nasser, mais malheureusement les 2 derniers tours ont été trop, il s'est fait passer, il n'a pas eu la chance de porter une attaque sur Nasser, et a été 12e, donc il a fait une belle course, mais pas suffisante, hein. On peut pas dire qu'il ait fait non plus une énorme course, mais bon, il a fait une très belle course dans le sens où il a été tout au long de la course largement plus rapide que son coéquipier Pascal Wehrlein. Donc ça, c'est fort. Et voilà, il n'a pas démérité. Il est à la porte des points, mais ça n'a pas suffi. Alors, tous ces pilotes que j'ai cités, certes, ils ont bénéficié de stratégies ratées. Parce que généralement, ces pilotes-là, ils font partie de ceux qui ne sont pas arrêtés pour chausser les pneus intermédiaires. Mais quand même, ils ont su rester assez performant pour maintenir leur position, pour pas faire d'erreur, et dans des conditions comme ça, c'est quand même assez fort, donc je leur tire mon chapeau, vraiment. Et voilà, c'est tout pour ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous au prochain, donc qui vient immédiatement après, hein, le HSD sur Max Verstappen, le pilote néerlandais, et donc en attendant... Le prochain podcast, ou pour ceux qui n'écouteraient pas le prochain podcast en attendant le prochain, peut-être celui d'après, je sais pas si j'en publierai un avant Abu Dhabi, on verra. Bon, ben, en attendant de me réécouter, tous ensemble vivons notre passion. À bientôt.